Alléluia. Eh bien, on va continuer ce matin. On veut continuer toujours dans la même veine. C'est ce que Dieu nous a mis à cœur, amen, d'être dans la connaissance de sa parole. Et je méditais là-dessus hier lorsque je me préparais. Et puis je me disais, qu'est-ce que c'est supposé de faire vraiment? C'est supposé de toujours donner réponse à toute la négativité qui pourrait venir dans votre tête. Aussitôt que la négativité s'élève, ça, au lieu de dire oui, je sais ce que tu dis, oui, mais regarde les faits dans ma vie, ben nous autres, on va pouvoir dire les faits sont là, oui, mais j'ai plein de raisons que je peux te donner, espèce de négativité, pour t'enlever de ma vie puis laisser la parole de Dieu faire son travail. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va regarder la 15e raison qui nous démontre dans la parole de Dieu qu'on peut être certain à cause de la parole de Dieu qui fait qu'on a la preuve, on a l'assurance que Dieu nous veut en santé, il nous veut guéri, il veut même prolonger nos jours à un moment donné. On va tomber là-dessus aussi. Et puis, c'est lorsqu'on regarde au ministère de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et puis, ça, c'est la 15e raison. Il faut regarder à son ministère parce que vraiment, des fois, les gens se demandent, oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment la volonté de Dieu que je sois guérie. Je ne sais pas si Dieu veut vraiment que toutes les choses que tu me dis, des fois les gens me disent ça, tu sais, toutes les choses que vous dites, là, je ne suis pas certaine si Dieu veut vraiment. Mais quand on parle de vouloir, ça veut dire c'est sa volonté. Eh bien, la parole de Dieu nous démontre ceci. On va aller à Jean 5, premièrement. Jean 5, et je vais lire le verset 30. Jean 5, verset 30. Jésus dit lui-même, « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne recherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, Jésus nous disait vraiment que d'après le ministère qu'il a fait sur la terre, il recherchait à faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Alors, en étant là-dessus, on va regarder au chapitre 6 et au verset 38. Et lorsqu'il parle ici, on confirme encore la parole par un autre témoignage de Jésus. Il dit, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Alors, on sait une chose à propos de Jésus, c'est qu'il était l'expression de la révélation. Il était vraiment la révélation de la volonté de Dieu sur la terre. Et il dit, « Je ne suis pas descendu du ciel pour venir faire ma volonté. » Jésus n'est pas venu sur la terre pour faire rien que ce qu'il voulait. Il y avait un but, c'était faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Amen. Et puis des fois, les gens vont nous dire, « Il n'y a jamais personne qui est au ciel pour nous dire comment c'était. » Ben Jésus vient de dire, « Je suis descendu du ciel. » Amen. Fait que s'il y en a un qui peut nous dire quelle est la volonté de Dieu, qui connaît Dieu, il est descendu du ciel. Non pour faire ce qu'il voulait faire, mais pour faire la volonté de son Père qui l'avait envoyé. Alors, on voit vraiment que le ministère de Jésus, donc ce que Jésus a fait comme ministère, c'est la révélation de la volonté de Dieu sur la terre pour tous les hommes, parce qu'on va le voir, et pour tous les temps aussi, parce que dans Hébreux 13, 8, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. On avait parlé de cela dans les semaines passées, lorsqu'on avait démontré qu'est-ce que Jésus faisait hier, puis comment ça va être au ciel, puis qu'on disait hier, puis dans le futur, on le sait éternellement. Alors, à propos de maintenant, c'est la même chose. Parce qu'il est le même, amen. Il reste le même. Même si il est monté au ciel, il reste le même. Puis ça, on va le voir aussi dans les semaines à venir, parce que là, on rentre dans une petite continuité de l'enseignement qu'on va faire ce matin. Alors, Jésus était la volonté de Dieu en action sur la terre. On va aller à Jean 14. Jean 14, et puis je vais lire à partir du verset 8. Encore une fois, on voit comment Jésus exprime qu'il faisait tout ce que son Père lui disait de faire. Alors, Philippe lui dit, c'était un de ses disciples, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Vraiment, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, quand tu regardais tout ce que je faisais, quand tu me regardais aller, tu pouvais dire que tu voyais Dieu. Fait que là, c'est encore plus direct que juste tantôt quand il disait, je suis venu faire la volonté de mon Père. Il faisait tellement la volonté de son Père qu'il disait, Philippe, quand tu me regardes, là, c'est Dieu en personne. Amen. C'est qu'est-ce que je fais? Et on va continuer de lire. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en lui, en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Alors, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père est en moi, sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Alors, vraiment, ici, il dit une autre chose aussi, il dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et je veux qu'on regarde ceci aussi. Des fois, le monde, ils vont dire, oui, mais ça, c'est Jésus. Ben, Jésus lui-même disait, c'est pas moi. Le monde va dire ça des fois. Oui, mais ça, c'est Jésus, là, dans le temps de Jésus, c'est les guérisons qui se faisaient. Bien, Jésus le dit lui-même, c'est même pas moi. Fait que vous pouvez, personne ne peut dire c'est Jésus. C'est Dieu. Puis Dieu demeure le même, puis il ne changera jamais. Dieu était Dieu dans l'Ancien Testament, il est Dieu dans le Nouveau Testament, puis il est encore Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Tu sais, moi, mon ombre, elle a beaucoup varié depuis que je suis un enfant. OK? Puis même, elle varie des fois quand je marche au soleil. Des fois, on dirait qu'elle est proche, proche, puis grosse, grosse. Des fois, on dirait qu'elle est longue, longue, longue. Merci, Seigneur. Amen. Mais Dieu, lui, il n'a aucune ombre de variation. Parce qu'il a toujours été le même, puis il va toujours demeurer le même. Alors, quand le monde dit « ça, c'est Jésus », bien, il se trompe. Parce que Jésus lui-même a dit « c'est pas moi ». Donc, c'est clair et net. Il dit, c'est le Père qui vit en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Devinez qui vit en nous. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, puis le Saint-Esprit. Voyez-vous, Jésus révélait son Père. Nous, on est supposés de révéler le Fils. Amen. Amen. On l'a appris en fin de semaine, en tout cas. Amen. Jésus a toujours voulu révéler qui était son Père. Mais nous autres, quand on se promène sur la terre, on est supposé de révéler ce qu'a fait Jésus. Puis ce que Jésus a fait, c'était l'expression directe de la volonté du Père. Parce qu'il l'a dit lui-même, « Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Puis il dit, « Quand vous me regardez, vous devriez voir continuellement le Père, parce que je ne fais que qu'est-ce que je vois faire, puis qu'est-ce que j'entends, puis en plus, c'est lui qui travaille en moi. » Amen! Alléluia! C'est la même chose pour nous. C'est pour ça qu'il n'y a aucun homme qui peut s'exalter sur la terre. Mais que Dieu soit toujours exalté lorsque ses œuvres s'accomplissent au travers de nous. Amen. Alléluia. Alors, vraiment, il nous démontre encore ici comment il était. l'expression directe de la volonté de Dieu sur la terre. Fait que la volonté de Dieu, on est supposé de la connaître si on regarde Jésus qui était son expression directe. Alors, on va aller voir à Matthieu 8. On va aller voir le ministère de Jésus alors. Si on veut voir que tout ce qu'il faisait, c'était la volonté du Père. Matthieu 8, et puis je vais lire le verset 16. Ça dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Est-ce qu'il guérit juste quelques personnes? Non. Il a guéri tous les malades. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités puis il s'est chargé de nos maladies. Quand il parle de ça, Isaïe le prophète, il prophétise d'avance, il dit lui, il va prendre nos infirmités puis il va prendre nos maladies. Il les a pris pour qu'on n'ait plus besoin, nous, de les supporter. Amen. Alors, il guérissait tous. Alors, on va continuer dans Matthieu 9. On va toujours tourner les pages tranquillement. Au verset 35, ça dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. » Tout, c'est tout. Quand on dit, il a tout fait le ménage, on sait que tout le ménage est fait. Amen. Quand Jésus dit qu'il guérissait toute maladie et toute infirmité, c'est tout. Alors, on va continuer chapitre 12. Et puis, je vais lire le verset 15. Ça dit, une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Alors, on voit que depuis qu'il a commencé au chapitre 8, au chapitre 9, partout ce qui va, il guérit toujours tous. Parce que Jésus n'a jamais refusé de guérir quelqu'un. Jamais refusé. Une fois, on l'avait enseigné, qui avait dit, « Je suis venu pour les brebis d'Israël », parce qu'on savait que cette femme cananéenne, il était vraiment, il faisait des orgies, des sacrilèges, des choses terribles contre Dieu et dans les idolâtries. Et puis, il a dit, en voulant dire, c'est pas le temps. Là, pour le moment, je suis venu pour les brebis. Mais à cause de sa foi, puis est venu devant lui, il a quand même guéri sa fille. Amen. Puis, il n'était même pas venu pour elle. Alors, c'est merveilleux de voir comment il guérissait toujours toute maladie, toute infirmité. Au chapitre 14, et je vais lire le verset 14. Ça, c'est lorsque son cousin Jean-Baptiste vient d'être décapité. Alors, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Quels malades? Les malades qui étaient là. Amen. On n'a pas besoin d'avoir tout le mot tout. Si moi je dis ce matin que j'ai guéri les malades, bien c'est les malades qui sont ici. Amen. Alors quand il a sorti de la barque, on a vu c'est quoi aussi dans les autres semaines qui le motivait à guérir, c'était la compassion. Amen. Et il a guéri les malades. Alors on va regarder au verset 34 et 36. 34 à 36, ça dit, « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. » Merci Seigneur. Tous ceux qui le touchaient y étaient guéris. Ça veut dire qu'il y avait tellement une grande foule que Jésus, il aurait bien voulu aller partout, mais la foule, ils sont allés partout dans tous les environs. Pouvez-vous imaginer si vous montez aujourd'hui à Omerville, à Magog, à Lennoxville, à Richmond, à Eastingus, à Ascot, à Waterloo, partout... Les noms m'échappent. Puis vous allez chercher, oui, oui, et vous allez coucher, et vous allez chercher toutes les malades qu'il y a partout. Puis vous les emmenez ici, sur le terrain. Le terrain va être plein. Parce que tout le monde a un bobo en quelque part. Surtout quand tu vieillis, tu as la maladie du tomalou. Tomalou, tomalou, tomalou. La maladie du tomalou. Amen. Alors, tous les malades, Eh bien, il y en a des multitudes de gens. Bien là, il dit, je vais me promener, puis tous ceux qui vont me toucher vont être guéris. Tous ceux qui me touchent vont être guéris. Il a dû se promener longtemps. Amen. Tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. Ça va plus vite comme ça. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Au chapitre 15, verset 29, ça dit, « Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. » Sûrement, quand il avait fini de marcher, puis tout le monde l'a touché, le chapitre d'après est allé s'asseoir. Merci Seigneur. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle, fait, ils sont allés en chercher d'autres en quelque part, des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit aux pieds, à ses pieds, et il les guérit. Amen. Il les a guéris. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient, et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Alors, on voit maintenant que, peu importe la maladie, c'est ça que j'aime avec ce passage, c'est peu importe la maladie, que tu sois aveugle, boiteux, estropié, muet ou beaucoup d'autres malades, sortes de maladies, ils ont tous guéri. Fait que c'est vraiment le docteur guérit tout. Amen, on avait une chanson qu'on chantait quand on était jeune, c'était le docteur guérit tout. Et puis si tu avais mal en quelque part, il en coupait un bout. Amen, c'est une chanson à répondre, amen. Mais lui, c'est le docteur guérit tout, amen. Peu importe. Ça veut dire que quand même les gens disent, oui, mais moi, là, c'est une maladie rare. Mais on a parlé de ça aussi dans les semaines passées, comment on a été racheté de la malédiction de la loi. Puis dans la malédiction, il y avait toute la liste des maladies. Ça dit même les maladies connues et inconnues. Fait que ça couvre, hein? Ça couvre toutes les maladies. Amen. Alors, il guérissait tous. Alors, vous avez remarqué aussi, ça dit, et la foule, quand elle voyait les muets parler, les aveugles voir, les boiteux marcher, ça dit, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Avez-vous remarqué qu'il ne glorifiait pas avant, quand il était muet, puis aveugle, puis estropié? Mais quand il voyait les bontés de Dieu, la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, c'est pas dur de lever les mains après ça puis de glorifier Dieu. Amen. C'est ça qu'on veut. On veut que tous les gens élèvent des mains vers Dieu et puis qu'ils remarquent et voient puis expérimentent les bontés de Dieu. On va aller à Matthieu 19 maintenant, parce qu'on continue toujours de regarder le ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus, c'est quoi? C'est l'expression directe, la révélation de la volonté de Dieu sur la terre. Fait que si les gens disent, je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu, bien nous autres, on le sait, amen. La volonté de Dieu, elle a été exprimée par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est partout où il allait. Le monde était guéri. Amen. Alléluia. Alors, dans Matthieu 19, je vais lire le verset 1 et 2. « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. » Encore une fois, il a guéri les malades. Et au chapitre 21, verset 14, ça dit des aveugles. Ça, c'est que lorsqu'il a fait le ménage dans le temple. Parce que dans le temple, il avait décidé de faire autre chose que la volonté de Dieu. Puis il avait décidé qu'il faisait du magasinage. C'était le marché aux puces. Il vendait des choses. On va le lire au verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Alors, après que fait le ménage, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Une chose qu'on peut remarquer dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, lorsqu'on lit tous les évangiles, et pourquoi ils répètent les histoires de Jésus, eh bien, c'est comme j'ai déjà expliqué, s'il y a un accident sur le coin de la rue et il y a des témoins de l'accident, eh bien, les polices vont interroger les gens qui ont vu les choses. Il y en a un qui va avoir vu l'auto, était bleue, puis l'autre auto rouge, elle n'a pas fait son stop, puis elle est rentrée dedans. L'autre, il a vu qu'il y avait deux personnes dans l'auto, puis elle s'en venait assez vite aussi, que même si l'autre qui n'avait pas fait son stop, si il n'aurait pas été une vitesse accélérée, il aurait pu arrêter. L'autre voit, et puis quand tu compiles le tout, tu as toute la chose au complet. Amen. Eh bien, on sait très bien que Matthieu, Marc, Luc, Jean étaient des gens qui voyaient tout ce que Jésus faisait, et chacun l'exprime aussi, c'est toujours la même chose, mais chacun l'exprime dans un flanc de montagne, comme ils l'ont vu et ressenti, comme ça on a tout le chose au complet. Mais on voit très bien l'importance dans tous ces ministères-là, dans tous les évangiles, l'importance du ministère de Jésus était concentré beaucoup sur la guérison. Amen. Faire connaître la volonté de Dieu puis la compassion qui coulait de lui pour guérir les gens. Alors, de 3 ans et demi de ministère, il y a eu de la guérison. Et on sait très bien dans Actes 10, 38, c'est exactement ce que Pierre a dit. Et vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui faisait du bien, qui allait de lieu en lieu et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il met la précision comment Jésus guérissait toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Alors, on peut voir comment la guérison est vraiment la volonté de Dieu. Amen. Dans Jean 14, parce que je veux qu'on remarque ceci aussi, on a lu tantôt comment Jésus disait à Philippe, écoute bien, tu me dis à moi de vous montrer le Père, pourtant, si tu me regardes, tu vas le voir depuis le temps que je suis avec vous, les œuvres que je fais. Mais regardez au verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. On va enseigner là-dessus les semaines prochaines. Mais Jésus, il n'a pas dit, vous savez, à Philippe, les œuvres que j'ai faites, je vous ai démontré la volonté du Père. Puis sa volonté, ben c'est qu'il vous aime. Puis durant le temps que j'étais ici, j'ai guéri, je vous ai montré, mais là, je m'en vais au Père, fait que c'est fini. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Mais pourquoi le monde ajoute à la parole de Dieu, puis le monde dit, oh oui, mais ça, c'est à Jésus. On a vu tantôt que c'est pas Jésus du tout. C'est Jésus en obéissance et en démontrant la volonté de son Père, puis c'est à son Père. Mais le monde veut arrêter ça. Ils disent, oui, mais ça, c'était dans le temps de Jésus. Jésus lui-même a dit, il a pas dit, je m'en vais au Père et naturellement, tout va s'arrêter. Alors, vous avez vu, fait que arrangez-vous avec ça. Il dit, non, je m'en vais au Père et je vous dis une chose, les œuvres que j'ai faites, vous allez les faire aussi. Et même, vous allez en faire des plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce que je vais tout accomplir ce qui doit être accompli. Lorsque je vais mourir sur la croix, et Jésus lui-même a dit, tout est accompli. Et la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 2:24, qu'il a porté nos infirmités, il a porté nos maladies par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Il s'est chargé de nos péchés sur la croix. Alors, tout est accompli. Alors, quand il dit, vous allez faire des œuvres, même des plus grandes, parce que je m'en vais au Père, c'est que là, vraiment, il allait payer le prix aux enfers, il ressuscitait, il prenait les clés, il faisait le chemin pour que nous autres, on puisse marcher dans les pas de Jésus, à l'exemple de Jésus, avec tout ce qui est accompli, puis on peut arriver puis dire aux gens, bien, tout est accompli. Il est trop tard pour que tu sois malade. Tout est accompli. Jésus y a accompli. Alors, nous autres, on va te révéler maintenant les œuvres de Jésus. Jésus a révélé la volonté de son Père. Nous, on révèle les œuvres de Jésus. Alors, on est supposé, à gagne qu'on est sur la terre de croyants, de faire encore bien plus que lui. Amen. Alors, il n'a pas dit, je m'en vais au Père, puis tout va arrêter. C'est le contraire. Il a dit, je m'en vais au Père, puis les œuvres que j'ai faites, vous allez les faire aussi. Alors, pourquoi arrêter les choses? C'est le contraire. C'est nous autres, il faut se réveiller, puis dire, attends un petit peu, là. Je pense qu'on a quelque chose à dire au monde et on va démontrer ce que Jésus a fait. Le monde va dire, oui, mais on est malade. Oui, mais Jésus, il a souffert. Moi, je suis ici pour te révéler Jésus. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'on va aller encore des coches plus haut, amen, pour démontrer la volonté du Père qui a été révélée en Jésus, puis les œuvres de Jésus qu'on doit révéler au monde. Les œuvres de Jésus qu'on doit révéler au monde. Voyez-vous, dans la Bible Message, vous pourrez pas suivre, quand Jésus dit « Je m'en vais au Père et les œuvres que je fais, vous allez en faire de plus grandes », voici comment c'est dit. Il dit « En m'en allant vers le Père, je vous donne le même travail à faire que j'ai fait. » Wow! Dans la Bible, le Message, c'est ce qu'il dit. « En m'en allant au Père, vu que je m'en vais au Père, je vous donne à faire le même travail que j'ai fait. » C'est vraiment ce que je viens de dire. J'ai démontré la volonté de mon Père, bien vous autres allez démontrer mes œuvres maintenant. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que si Jésus est élevé, il va attirer tous les hommes de la terre vers lui. Il faut élever Jésus. Il faut élever ses œuvres. L'amour, tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Voyez-vous, je veux vraiment aussi parler de cela. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, le fils d'Élisabeth, qui a conçu dans sa vieillesse, elle aussi miraculeusement. Elle avait été vierge toute sa vie, stérile toute sa vie. Pas vierge parce qu'elle était mariée maintenant. Jean-Baptiste connaissait la volonté de Dieu dans sa vie, puis il connaissait aussi celui qui s'en venait après lui. Voyez-vous, on va juste lire dans Jean 1 parce que je trouvais que ça allait tellement bien avec ce qu'on veut dire ce matin. Ce qu'on veut démontrer ce matin, dans Jean 1, puis je vais commencer à lire au verset 19. Voyez-vous, parce que Jean-Baptiste, lui, il s'est consacré, il était même dans le désert, il avait juste une peau, puis il se nourrit d'animal sur lui, il se nourrissait de miel sauvage, il était vraiment au jeûne, il faisait la volonté, puis il savait quelle était la volonté, puis il baptisait les gens. Ça fatiguait les religieux. Alors, ils sont arrivés à côté de lui au verset 19, dans Jean 1, puis il a dit, « Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Ils ont dit, « T'es qui que tu es, toi? » Savez-vous, c'est bon de savoir qui on est. Moi, je suis un enfant de Dieu, né de nouveau, qui a été sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ à cause du grand amour que Dieu a eu pour moi. J'ai été lavé, j'ai été sanctifié, je suis un ambassadeur et je sers à la gloire de Dieu. Je sais qui je suis. Amen. Qui je suis vraiment. C'est sûr que si je vais m'engager en quelque part, c'est pour ça que je vais lui dire. Je m'appelle Chantal Paulus. Amen. Alors, il demande à Jean-Baptiste, « T'es qui, toi? Qui es-tu? » Alors, « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et sans restriction, il affirma, il dit, qu'il n'était pas le Christ. Parce que premièrement, ils sont allés le voir, puis ils étaient intrigués de sa façon de faire, puis comment qu'il prenait de la place, puis il guérissait, et pas il guérissait, mais je veux dire, il faisait le baptême, il appelait les gens à la repentance. Ils ont dit, qui es-tu? Fait que premièrement, il a dit, je veux juste vous déclarer, je ne suis pas le Christ. Claire et net. Amen. Et alors ils lui demandèrent, quoi donc? « Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Il dit, « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Voyez-vous, je veux que vous compreniez ceci. Il lisait aussi la parole de Dieu. Puis il avait trouvé dans le livre de Ésaïe où, qui il était. Il dit, comme Ésaïe le prophétisait d'avance, voici ce que je suis. Je suis celui qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers parce que le Sauveur s'en vient. Savez-vous que Jésus a fait exactement la même chose? Vous vous souvenez dans Luc 4, quand ils lui ont présenté le livre de Ésaïe, et puis Jésus a trouvé la place où était écrit, et il dit, voici, on va y aller à Luc 4. Gardez votre main ici parce qu'on va revenir. Mais à Luc 4, au verset 18, oh ben, on va commencer au verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue et renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et boy, là il va dire, « Aïe, aïe, ok, c'est ça que tu nous enseignes aujourd'hui que c'est fait, là. Il est où? » Jésus dit, « Voici. » Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Mais voyez-vous, Jean-Baptiste aussi avait été dans Ésaïe. Et puis, il a trouvé la place, puis il a dit, « Voici mon appel. » Ça, c'est exactement ce que Dieu m'appelle à faire, d'amener les gens à la repentance, puis de préparer le chemin pour celui qui vient après moi. OK? Alors, je te préfère une fondation de quelque chose qui va aller avec ce que j'ai commencé de dire ce matin. Alors, Jésus savait exactement qu'est-ce qu'il était venu faire, le plan de Dieu dans sa vie. Jean-Baptiste sait exactement qui est appelé. Il dit, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie non plus, ni un prophète, ni rien. Moi, je suis seulement la voix qui crie dans le désert, comme Ésaïe le dit. Amen. Alors, il connaît son appel. Et il connaît aussi l'appel de celui qui vient après lui. Parce qu'il dit ceci au verset chapitre 1 de Jean. Verset 24, « Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens et ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Ils ont dit, « Pourquoi d'abord tu baptises les gens? » Alors Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau. Au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. » Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. » Mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Et Jean a rendu le témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Alors, vraiment, la fondation que je suis en train de faire, c'est que Jésus connaissait son appel. Il a trouvé ça dans la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste connaissait son appel, qui l'a vu dans la parole de Dieu. En passant, c'est dans Ésaïe 40, verset 3, que ça dit la voix dans le désert qui crie pour aplanir les sentiers. Alors, il a vraiment pris cette écriture-là, puis il a dit, ça, c'est moi. Alors, il connaissait son appel. Jésus connaissait son appel. Mais Jean-Baptiste aussi connaissait l'appel de Jésus. Il savait que, il dit, voici, ça, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et il dit, je ne serais même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Alors, Jean-Baptiste connaît l'appel de Jésus aussi. Amen. Alors, vraiment, maintenant, pourquoi je vous ai démontré ça? On va aller à Matthieu 11. Puis là, je voudrais que Pasteur Brian monte juste verset par verset. OK? Matthieu 11. Puis si vous suivez dans votre Bible, allez pas plus vite que moi. OK? Matthieu 11, verset 1. Ça dit, « Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. » On sait que Jean-Baptiste, lui, il est en prison. OK? Et puis, il sait que son heure s'en vient, qu'il va mourir. Il le sait. Alors, Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, maintenant verset 3 seulement, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » On arrête là, tout le monde regarde en haut, arrêtez de lire. Amen. Voyez-vous, tantôt on a vu quand Jean-Baptiste était dans la plénitude de son ministère, il savait trouver dans la Bible qui il était, c'était quoi son ministère sur la terre. Il était rempli de confiance, il avait l'onction sur son ministère, et puis il reconnaissait qui il était, puis il reconnaissait celui qui venait après lui, et puis il reconnaissait le ministère de celui qui arrivait, qui enlèverait le péché du monde. Il savait que c'était lui, que lui préparait le chemin pour lui, puis que lui, il était même pas digne de délier la courroie de ses souliers. Maintenant, Jean-Baptiste, son ministère, il n'est plus dans le ministère à plein temps. Là, il est en prison. Puis là où il est en prison, il est en prison à cause, justement, des paroles de connaissance qu'il a. Parce qu'il disait, « T'es pas correct de prendre la femme d'un autre. » Et puis, il s'est fait mettre en prison parce que, vous comprenez, il y a des paroles de connaissance, ça déplaît à ceux qui sont en autorité, et puis ils disent, lui, on va y fermer la boîte, ils vont mettre en prison. Mais il le sait dans son cœur qu'il va mourir. Mais vous savez, quand on est en prison, c'est les années les plus difficiles, c'est les obstacles, c'est la noirceur, c'est la défaite. Amen. Et puis, là, il réévalue sa vie, son ministère, puis il dit, j'espère que je n'ai pas manqué le bateau. J'espère que j'ai bien préparé tout ce que je devais faire pour le bon. Vous savez, combien de vous, ça peut vous être arrivé, des fois, de juste questionner, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je fais les bonnes choses? Puis pourtant, vous avez eu plein de choses qui vous ont confirmé que vous étiez à la bonne place pour au bon moment. Mais tout le monde, des fois, on éprouve des petits creux ou des choses qui font que des fois, on réévalue. Et c'est là qu'il faut s'encourager avec les choses qu'on a eues. Amen. Alors vraiment, lui, il est dans un temps difficile, là. Il sait qu'il va mourir, c'est sûr, parce qu'il le sent. Il a fait son ministère du mieux qu'il pouvait. Et il y a eu toutes sortes de gens qui venaient à lui et puis qui lui disaient, « T'es qui, toi? » Et puis tout ça, puis avec confiance, il savait qui il était, puis tout ça. Mais maintenant, il est tout seul en prison. Puis il sait que la mort s'en vient, il va être décapité. Il sait que la mort s'en vient, fait qu'il veut juste réévaluer. Et puis il envoie des gens dire à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir? » Ou bien non, s'il faut qu'on attende un autre, je veux que tu me répondes. Je veux juste, si au moins je vais mourir, savoir que j'ai fait tout ce que je devais faire, puis pour le bon. Fait que Jésus a renvoyé les apôtres, puis il a dit, dites-lui, oui, oui, c'est bien moi, c'est correct, tu n'as pas besoin de t'en faire, c'est moi. Est-ce que c'est ça qui a répondu? Non, on va aller voir. Amen. Alors, Jésus, il doit le réassurer. Jésus doit lui donner une réponse qui va satisfaire Jean-Baptiste. Il est sur le bord de mourir, il se pose des questions, il veut juste être sûr. Fait que Jésus doit lui donner une réponse qui va faire que Jean-Baptiste va dire, « Je m'en vais en paix. » Et voici la réponse que Jésus lui donne. Jésus leur répondit, « allez rapporter à Jean ce que vous avez ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Autrement dit, il sait exactement. Combien de vous savez que Jésus savait toujours quoi répondre? Quand même une fois, Nicodème lui a demandé une question, puis Jésus n'aurait pas répondu à sa question, il lui a fait le ministère du salut. Il a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il dit, ben là, comment je dois faire ça? Jésus, il savait toujours quoi répondre parce qu'il savait ce que le monde pensait. Des fois, ça disait, sachant ce qu'ils pensent en leur cœur, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il est mieux de faire, guérir cet homme-là ou lui pardonner ses péchés? Vous savez, Jésus avait toujours la réponse parce qu'il est la sagesse incarnée aussi. Fait que Jésus sait exactement quoi lui répondre. Il dit, il sait en lui-même que Jean-Baptiste est en prison. Il veut être réassuré avant de mourir qu'il a vraiment bien fait. Bien, il dit, pour qu'il soit satisfait, allez lui dire quel ministère je fais. Les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, les lépreux sont guéris. Je fais le ministère de la guérison. Je suis l'expression directe de la volonté de Dieu sur la terre. Ce que vous me voyez faire, vous voyez le Père. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. C'est vraiment Dieu avec nous. Il a vraiment préparé le chemin de la bonne personne à cause du ministère de guérison que je fais sur la terre. Amen. C'est ce qu'il lui a répondu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus savait quelle réponse lui donner. Alors, pendant 3 ans et demi, Jésus n'a jamais refusé de guérir personne. Et dans les semaines qui vont venir, la semaine prochaine, on va voir comment le ministère de Jésus continue encore sur la terre. Amen. Au travers de la parole de Dieu. Et vraiment, c'était un ministère de guérison. Jésus est mort à la croix. Il a guéri maintenant toute la terre entière. La parole de Dieu nous dit, comme j'ai dit tantôt, dans 1 Pierre 2:24, lui qui sait, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, on vive pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéri. C'est fait. Il faut juste savoir comment aller le chercher. C'est comme on a été sauvés aussi quand il est mort sur la croix. Mais combien de vous savez que quand j'avais 17 ans, je n'étais pas sauvée? Pourtant, j'ai été sauvée. Mais quand j'ai eu 32 à peu près, c'est là que je me suis aperçue que le salut m'appartenait. Amen. Alléluia. Alors, il faut aller le chercher. C'est par la foi. Puis la foi vient comment? Elle vient d'entendre la parole de Dieu. Alors, plus on entend la parole de Dieu, plus on arrive à la place qu'on dit, je refuse ça, je viens chercher ce qui m'appartient. Et ça, c'est à moi et je le garde. C'est là qu'on devient, comme ils disent, mordicus. On mord, puis on ne laisse pas aller. Puis là, c'est là que les symptômes diminuent davantage parce qu'on prend ce qui nous revient. Amen. Alléluia. On va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alors, comme je dis à chaque semaine, s'il y en a qui, pour une certaine raison, vous avez été affecté dans votre corps par quelque chose qui a voulu venir attaquer votre corps de douleur ou maladie, un virus ou quoi que ce soit, on peut prier pour vous. Peut-être que vous pouvez prendre juste la parole de Dieu ce matin puis dire, je viens de prendre ma guérison. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe 4, à partir du verset 23, que la parole de Dieu, elle va agir comme un médicament. Ça a déjà arrivé que des gens étaient guéris sur place juste d'avoir reçu la parole. Ça a déjà arrivé que des gens ont été remplis du Saint-Esprit juste d'avoir reçu la parole. Il était avec Pierre, ils étaient tous assis. Puis comme Pierre, ils annonçaient l'Évangile, l'Esprit est descendu sur eux, puis ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Alors, c'est possible aussi d'être guéri juste d'entendre la parole de Dieu. Amen. C'est possible aussi d'être guéri par l'imposition des mains. C'est possible d'être guéri par la prière de l'accord, lorsque deux personnes prient en accord. C'est possible d'être guéri pendant la louange, pendant qu'on s'abandonne à Dieu. Dieu opère des miracles. Merci Seigneur qui a donné une multitude de raisons, d'avenues, je veux dire, par lesquelles on peut être guéri. C'est la preuve. Savez-vous, si moi je donne 15 avenues à quelqu'un pour qu'il réussisse à faire un gâteau, je les ai vraiment aidés à réussir le gâteau, là, hein? Amen. J'ai même dit, je peux le faire pour vous autres. Fait que là, ils sont sûrs de réussir. Amen. Alors, vraiment, c'est une autre façon. Encore une fois, j'ai été trop vite, mais c'est une autre raison qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri sur la terre. C'est par toutes les avenues qu'il a ouvertes pour nous démontrer comment c'est possible d'aller le chercher. Amen. Alléluia. Alors, on peut prier pour vous ou on peut prier sur un linge que vous irez vous-même mettre sur les gens par la foi. Amen. Alléluia. Et si tout le monde est guéri ce matin, on priera sur les requêtes, puis ça va être bien beau comme ça aussi. Amen. Alors, on va rechanter un chant. Merci, Seigneur.